Ça va déjà mieux. Il y a des gens qui prennent déjà des, qui vont déjà à la piscine et tout, là.
Ah oui, mais même au bord de la mer, tout.
Bon, et ben c'est déjà l'heure.
Allez, Johan.
Bonne soirée.
Bonne soirée, à
Allez.
bientôt, hein. C'est bon, on est revenu là. À
Ah
bientôt,
ben, ok,
hein.
merci beaucoup à toi et à très vite aussi à La Réunion.
Oui. M'espère bientôt.
Allez, bye bye.
Allez, à
Ciao,
l'artiste.
salut, merci. Dans quelques instants, c'est Europe 1 Nuit pour vous accompagner pendant toute cette soirée et puis demain matin, café crème et vitamines avec Francky hein, qui sera là pour vous réveiller. Vos rendez-vous à ne surtout pas manquer, dont le free de millions dès 7h15 avec le montant que je vous rappelle. Ben, il faudra le noter pour ceux qui sont avec nous et qui seront là demain matin. 211 € le montant du free de millions demain matin pour café crème et vitamines avec Francky. 211, 211. 11 € pour se réveiller avec Freedom et peut-être remporter cette belle cagnotte. C'est dès 7h15. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, rassurez-vous, pour Chalot Tropical. Il est minuit et une minute à La Réunion. Voici Europe 1 Nuit pour vous accompagner.
22h.
Belle soirée à l'écoute de Radio Freedom.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce mardi soir. À la une de votre journal, un drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle par un député insoumis, tollé sur les bancs de l'Assemblée nationale. L'auteur de ce coup d'éclat, Sébastien Delogu, est exclu 15 jours, mais il assume son geste. Récit dès le début de ce journal. Échange tendu entre Marion Maréchal et une journaliste de France Inter ce matin. La tête de liste Reconquête, indignée par une question qui sous-entendait qu'il existait un lien entre ses idées sociétales et celle de Philippe Pétain. Dans ce journal également, la baisse des prix de l'immobilier ancien s'accélère. Et puis à Roland-Garros, Pierre Hugerbert tente de réaliser l'exploit ultime, battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le conflit israélo-palestinien s'est invité au cœur de l'Assemblée nationale cet après-midi. En pleine séance et alors que le gouvernement était interpellé sur la reconnaissance de l'État de Palestine, le député La France Insoumise, Sébastien Delogu, s'est levé de son siège en brandissant un drapeau palestinien, Alexis de La Fontaine.
Oui, c'est un incident inédit au Palais Bourbon, à tel point que le bureau des présidents de l'Assemblée nationale a prononcé la sanction maximale contre Sébastien Delogu, une censure avec exclusion pour une durée de 2 semaines et le retrait d'un mois de son indemnité parlementaire. Écoutez la réaction du député insoumis.
C'est une médaille, tout simplement. C'est une médaille parce que il y a des massacres en ce moment même en Palestine. Donc il faut aussi que des symboles forts soient faits et j'en ai pris la lourde responsabilité.
Le geste de Sébastien Delogu a déclenché une véritable onde de choc chez les députés. L'insoumis David Guiraud et le républicain Meir Habib en sont presque venus aux mains devant les journalistes. Écoutez.
Très poursuivi en justice, monsieur.
Touchez pas, hein.
Je suis en pleine interview.
Qu'est-ce que vous allez me faire?
Vous voyez ces gens-là
dans les caméras.
Ces gens n'en ont rien à faire.
C'est un scandale.
Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc.
Sébastien Delogu n'en est pas à son premier coup d'éclat. En effet, celui qui se présente comme le député des quartiers nord de Marseille sera jugé le mois prochain pour violence. Sébastien Delogu aurait agressé 2 professeurs alors qu'il participait au blocage d'un lycée contre la réforme des retraites.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1, des tensions à l'Assemblée et de nouvelles manifestations dans les rues de la capitale ce soir. Nouvelle preuve de l'importation en France du conflit au Proche-Orient. Un rassemblement est en cours, place de la République à Paris. Chloé Lagadou, vous êtes dans les rues de Paris pour Europe 1. Environ 10 000 personnes ont répondu à l'appel de plusieurs formations de gauche radicale. Et depuis quelques minutes, eh bien, on assiste à une manifestation sauvage.
Ah oui, hein, après 2 heures de rassemblement, place de la République, les manifestants se sont élancés aux alentours de 20h30 dans les rues parisiennes, sous les yeux ébahis des personnes attablées en terrasse de bar ou accoudées à leurs fenêtres qui assistent à cette manifestation sauvage. Comme vous l'avez dit, ils sont près de 10 000 ce soir à avoir répondu présent d'après les forces de l'ordre. Drapeau palestinien en main et keffiyeh sur la tête, les manifestants sont venus exprimer leur colère après les tirs israéliens sur la ville de Rafah. Et dans les rues de la capitale, les slogans en soutien à la Palestine résonnent. Arrivés au niveau de la gare du Nord, les forces de l'ordre ont bloqué l'avancée des manifestants qui, en ce moment même, rebroussent chemin et se dispersent dans les rues de la capitale. Un groupe de quelques centaines de manifestants continue tout de même de marcher en direction de la place de Clichy.
Chloé Lagadou, en direct des rues de Paris pour Europe 1. Et parmi les drames mentionnés par les manifestants, il y a ces frappes israéliennes dans la ville de Rafah ces dernières heures. 45 morts dimanche et 21 aujourd'hui, selon les autorités gazaouis, à chaque fois dans des camps de déplacés palestiniens. Mais l'opération israélienne dans la ville du sud de la bande de Gaza est toujours considérée comme limitée par les États-Unis. Washington qui assure que le soutien américain à l'État hébreu ne changera pas. Et c'est aujourd'hui que l'Irlande, l'Espagne et la Norvège ont officiellement reconnu l'État palestinien. Interrogé sur un éventuel changement de position de la France à ce sujet, Emmanuel Macron répète qu'il n'y a pas de tabou, mais qu'une reconnaissance de la Palestine devait avoir lieu, je cite, à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. L'Union européenne regrette profondément l'adoption définitive de la loi sur l'influence étrangère en Géorgie. Ce texte, contesté par des dizaines de milliers de manifestants ces derniers mois, est inspiré d'une loi liberticide en vigueur en Russie. Le Parlement géorgien l'a entériné aujourd'hui en contournant le veto présidentiel. Ce soir, de nouveaux rassemblements pro-européens et anti-Moscou ont lieu dans la capitale Tbilissi.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
C'est ce qu'on appelle, à minima, un parallèle hasardeux. La tête de liste Reconquête aux prochaines élections européennes, Marion Maréchal, était interrogée ce matin sur France Inter par la journaliste Sonia De Villers. Les échanges tournaient autour d'une récompense attribuée à une actrice transgenre à Cannes le week-end dernier, quand l'intervieweuse a semblé comparer les idées sociétales de la candidate à celles du maréchal Pétain, Jacques Seret.
Oui, assise dans le studio de la radio publique, Marion Maréchal n'était pas loin de tomber de sa chaise après cette question de la journaliste de France Inter.
Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ?
Une interrogation à la suite de la prise de position de la tête de liste Reconquête qui accuse le Festival de Cannes d'avoir remis le prix d'interprétation féminine à un homme, en cause le prix attribué à l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon. L'échange se poursuit.
Est-ce que la société a évolué depuis cette époque-là?
Oui, passer à la question
simplement.
Excusez-moi. Oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous.
Quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base la France.
Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non?
Une séquence dénoncée sur les réseaux sociaux par les soutiens de la candidate pour relancer sa campagne. Éric Zemmour relaie d'ailleurs ce passage pour avancer l'une de ses propositions, à savoir la privatisation de l'audiovisuel public.
Jacques Seret du service politique d'Europe 1. Et après cette séquence, Marion Maréchal s'est exprimée dans l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. La tête de liste Reconquête estime, je cite, que Sonia De Villers se disqualifie elle-même par l'outrance et la bêtise de cette question. Les députés ont adopté en première lecture le projet de loi d'orientation agricole. Ce texte prévoit entre autres de favoriser le renouvellement des générations de paysans. Une grande partie de la gauche et le Rassemblement national ont voté contre. Les sénateurs doivent maintenant se pencher sur le texte. Le tueur de DRH condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans comme en première instance. Gabriel Fortin, 49 ans, était jugé pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat en 2020. Le lycéen de 18 ans, interpellé après avoir agressé son enseignante hier dans le Maine-et-Loire, avait préparé son geste depuis plusieurs jours et voulait s'en prendre à deux de ses camarades, selon le parquet d'Angers. La garde à vue du suspect a été prolongée aujourd'hui. Vous entendez certainement cette phrase depuis de nombreux mois si vous cherchez à acheter un bien immobilier. C'est pas le moment, il faut attendre que les prix baissent. Eh bien, ce moment pourrait être venu, Margot Faudéré, parce que sur un an, les prix des logements anciens sont en net recul.
Effectivement, les chiffres de ce début d'année confirment bel et bien une accalmie. En un an, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont diminué de près de 5% en France, aussi bien pour les appartements que pour les maisons. À Lyon, Anne Monard-Bretin constate que certains propriétaires acceptent désormais de diminuer les prix. Elle dirige une agence immobilière du réseau Guy Hoquet dans le quartier de Croix-Rousse et elle s'attend à une hausse de 20% des ventes cette année.
Aujourd'hui, on a plus de propriétaires à l'écoute. C'est-à-dire que quand on rend une estimation en disant votre appartement vaut entre 420 bain et 445 000 euros, on va le mettre en vente tout de suite à ce prix-là. Même s'ils disent « Ah, moi, je pensais qu'il valait 500 000 ». Non. Et en fait, on va leur montrer d'autres biens en vente qui font la même taille, géolocalisés au même endroit et qui ne sont pas à ce prix-là.
Mais attention, tous les propriétaires n'acceptent pas de baisser les prix. Bien souvent, il s'agit de Français contraints de se séparer rapidement de leurs biens quand la famille s'agrandit, dans le cas d'une mutation ou d'un divorce. Un mauvais DPE aussi peut influencer à la baisse les prix d'un logement. À Montpellier, par exemple, un studio mal noté, c'est-à-dire F ou G, se vend en moyenne 11% moins cher qu'un autre studio.
Les explications de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 est noté qu'en région parisienne, la baisse est particulièrement marquée. Les prix ont chuté de plus de 8% entre les premiers semestres 2023 et 2024. C'est la saison des barbecues et des pique-niques, même si le temps ne s'y prête pas partout. Mais attention, si vous avez acheté des saucisses et de la charcuterie récemment, de nombreux lots de produits Carrefour et Tradival font l'objet d'un rappel. Ils pourraient contenir du verre, du métal ou encore du papier. Les articles concernés ont été vendus dans toute la France depuis le 14 mai dernier. Plus d'informations sur le site rappel.conso.gouv.fr. Vous écoutez Europe 1, il est 22h10. Prenons la direction de Roland-Garros.
Europe 1, en direct de Roland-Garros.
Inès Zegloul, vous êtes sur le court Philippe Châtrier où Pierre Hugerbert défie le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic au premier tour. Alors le Français a perdu le premier set 6-4, mais il s'accroche dans la deuxième manche.
Ah oui, et on s'envole pour un tie-break ici sur le central, 6-6 dans la deuxième manche, dans le jeu décisif, ça s'accroche. Hein, effectivement, on a 2-1 pour Novak Djokovic actuellement. Il prend des risques, Pierre Hugerbert, et ça paye. Il vient déranger le numéro 1 mondial avec un jeu beaucoup plus varié, avec des services volés, c'est un peu sa spécialité. Et ça marche, mais attention, on le connaît, le Joker, on sait qu'il est endurant et qu'il risque de durcir son jeu, hein, Maël. Donc attention ici sur le central.
Bon, on espère quand même un exploit de Pierre Hugerbert, ce serait magnifique et ça permettrait de finir cette journée en beauté parce que les Français n'ont pas vraiment brillé aujourd'hui. Hein.
Oui, Alizé Cornet, Arthur Cazot, Mladenovic plutôt dans la journée, Adrian Manarino ce soir. Ça fait encore beaucoup de défaites pour le clan français. Il y en a une plus amère que les autres de défaites, c'est celle de la pépite, l'espoir français, Mpetchi Péricard, qui cède finalement ce soir contre le Belge David Goffin au terme d'un match marathon assez impressionnant. 4-6, 6-4, 6-3, 6-7, 6-3. Le Belge qui est carrément sorti du cours 14 sous les huées des supporters déchaînés. Mais Maël, il y a au moins une bonne nouvelle, cette victoire aujourd'hui d'un autre coq français, Arthur Rinderknecht, victorieux contre Walton, 6-2, 6-4, 7-5. Et puis dernier coq en lice, hein, aux côtés de Pierre Hugerbert, Constant Lestienne, qui est mené deux manches à une par l'Espagnol Carballes Baena. Et puis Grégoire Barrère qui se frotte au 19e mondial Bublik. On a 4-3 hein, dans la première manche pour Bublik.
Bon, on suit ça avec vous, Inès Zegloul, évidemment, tout au long de la soirée. Vous qui êtes en direct de Roland-Garros, Europe 1, je le rappelle, radio officielle de Roland-Garros. Vous écoutez Europe 1, il est 22h12. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Pierre de Villeneuve recevait tout à l'heure la députée La France Insoumise, Alma Dufour. Elle est bien sûr revenue sur cet incident à l'Assemblée Nationale. Ce député insoumis qui a brandi un drapeau palestinien.
Europe 1. Bonsoir à Alma Dufour.
Bonsoir.
Députée LFI de Seine-Maritime, ce coup de théâtre à l'Assemblée Nationale, est-ce que c'était préparé?
Alors non, c'est la première question que tout le monde pose, mais non, en fait, c'était une initiative de mon collègue.
Unilatérale?
Oui, unilatérale, complètement.
Parce que comme vous êtes levé comme une flèche et vous avez applaudi, j'ai l'impression que vous attendiez le moment venu, un peu comme dans un guet-apens. Ou...
Si vous voulez tous les secrets des dieux,
en
gros, moi, comme j'ai été celle qui posait la question au gouvernement, il m'a prévenu.
À Franck Riester qui vous répondait.
Voilà, enfin, je voulais la poser à Gabriel Attal parce que vu la gravité de la situation, j'aurais voulu que ce soit lui qui réponde. Mais quoi qu'il en soit, en gros, deux secondes avant que je prenne la parole, effectivement, Sébastien m'a dit ce qu'il allait faire. C'était trop tard pour prendre une discussion collective ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, je n'ai, à part moi, deux secondes avant, personne n'était au courant de la France Insoumise.
Est-ce que si vous l'aviez su avant, vous lui auriez dit non, attends, déconne pas, faut pas faire ça?
Bah écoutez, on s'attendait évidemment à ce que ça déclenche une nouvelle vague de polémiques, etc. Néanmoins, on le remercie de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que déjà, par exemple, au Parlement italien aujourd'hui, des députés ont brandi le drapeau israélien, parce que ça arrive dans une journée très particulière, c'est la journée où la Norvège l'Espagne et l'Irlande reconnaissent enfin l'État palestinien. Mmh. Où du coup se pose la question de l'Union européenne qui est à la traîne sur ce sujet par rapport au reste de la communauté internationale, de reconnaître enfin l'État palestinien. Et deuxième chose excessivement importante, c'est le lendemain du massacre épouvantable dans un camp de réfugiés où on a vu des bébés décapités, pour le coup, vraiment, par l'armée israélienne.
Décapités.
Oui, vous n'avez pas vu les images, c'est dommage, les médias les montrent peu. En réalité, les images des violences atroces qui circulent sur les réseaux sociaux depuis 8 mois et qui doivent expliquer aussi en grande partie la colère d'une partie de la jeunesse que vous voyez dans la rue, c'est des images insoutenables. Insoutenables. On est sur un génocide et c'est pour ça qu'on se permet d'employer ces mots. Et enfin, dernier point, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunissait aujourd'hui et la France en est membre permanent et nous demandons enfin à Emmanuel Macron de prendre des actes.
Oui, alors justement, vous parlez d'Emmanuel Macron, juste avant de parler d'Emmanuel Macron, sur le terme de génocide, vous qui êtes justement scrupuleuse avec LFI des termes employés par les Nations Unies, peut-être attendons que les Nations Unies parlent de génocide.
Voilà, tout à fait.
Emmanuel Macron dit ce soir ne pas vouloir agir, en l'occurrence pour la reconnaissance de l'État de Palestine, sous le coup de l'émotion, sachant que pour lui, le sujet n'est pas tabou. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je me demande quand est-ce qu'il va reconnaître l'État palestinien, c'est-à-dire le jour où les 2 millions de Gazaouis seront morts et qu'il n'y aura plus une maison debout et plus aucun hôpital debout. Parce que c'est ça qu'on est en train de parler. La bande de Gaza est devenue inhabitable. La moitié des habitations sont déjà détruites, 80% des hôpitaux sont détruits, le dernier hôpital de Rafah ne fonctionne plus, il y a encore 1 million de personnes à Rafah et les chars israéliens viennent d'entrer dans la ville. Donc quand est-ce qu'il va trouver que c'est le bon moment de reconnaître l'État palestinien?
On est dans un événement qui est long, de plusieurs mois, mais qui est une riposte, encore une fois, aux attentats du 7 octobre.
C'est une riposte aux attentats du 7 octobre, mais si vous prenez...
Donc l'État israélien riposte.
Si vous remontez, alors attendez, il y a riposte et puis il y a massacre indiscriminé de civils jusqu'à commettre un génocide.
Comme il y a eu un massacre le 7 octobre dans les kibboutz.
Mais on ne parle pas de la même ampleur, monsieur. Il y a 40 fois plus de victimes dénombrées.
Mais une vie est une vie, on ne va pas parler.
Mais justement, une vie est une vie. Bah, à un moment donné, il y a quand même des histoires d'échelle. Et ce n'est pas, pas manquer d'empathie pour les victimes du 7 octobre. Je rappelle qu'il y a 40 fois plus de morts dénombrés Gazaouis, la moitié encore sous les décombres qu'on n'a pas encore compté, et surtout que 2 millions de personnes sont privées d'eau, de nourriture, d'électricité depuis 7 mois, et que c'est ça qu'a reconnu le procureur de la Cour pénale internationale pour justifier la demande d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou.
J'entends vos arguments, Alma Dufour, juste parce qu'il y a vos arguments, et puis il y a les observateurs qui disent, la France insoumise n'en a que faire de la Palestine, c'est que dans un but électoral, parce qu'il y a les élections européennes qui approchent et que vous êtes très très bas dans les sondages et que c'est le moment, c'est votre carburant électoral de parler de la Palestine. Qu'est-ce que vous répondez?
Je trouve ça odieux, parce que s'ils étaient sincères, ils verraient que depuis octobre, on se mobilise sans relâche sur cette question, et c'était la campagne des européennes était bien loin d'avoir commencé.
Sans relâche sur quel sujet? J'ai pas compris.
Sur la question du cessez-le-feu à Gaza, tout simplement. Ça fait depuis octobre qu'on alerte sur ce qui va se passer.
Vous avez tardé de dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Hier encore, à Paris-Dauphine, quand on pose la question à Rima Hassan, elle ne répond pas.
Monsieur, dès le 8 octobre, on a demandé à ce que le Hamas soit traduit devant la Cour pénale internationale et jugé pour crime de guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons suivi la boussole du droit international depuis octobre. Du début jusqu'à la fin, tout ce que nous avons dit qui se passerait, toutes les attitudes que le gouvernement israélien a eues et tous les massacres qui ont été commis, nous avons alerté le gouvernement, nous avons alerté les médias français depuis 8 mois. Nous reprocher de faire un calcul électoral, d'ailleurs avec des relents un peu islamophobes, voire racistes, comme s'il n'y avait que les musulmans, les habitants de quartiers populaires qui se préoccupaient de la question de Gaza, c'est excessivement insultant. Je vais le dire clairement parce que, honnêtement, la France insoumise,
moi j'aime bien quand on te marque clairement.
Parce que il y a un truc qui nous caractérise, c'est qu'on baisse jamais les yeux et qu'on cède jamais sur nos valeurs, ni un pouce de terrain sur nos valeurs, même si ça doit nous entraîner des polémiques injustes, même si on doit être stigmatisé, même si on doit être bouté de l'arc républicain.
Une dernière question, si vous le permettez, Madame la députée. Sébastien Delogu, quand il s'est fait exclure, donc là il est exclu pendant 2 semaines, il va avoir la moitié seulement de son indemnité pendant 2 mois, dit c'est une médaille, c'est une récompense. On a envie de lui dire, mais il est député de la République, c'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu vidéo, là, il est député de la République, c'est quand même dément de dire, c'est une médaille, c'est une récompense.
C'est une médaille, si ça permet à la société française et surtout à la communauté internationale, enfin, qui commence à s'en rendre compte, de démasquer le double discours du gouvernement français et de l'Assemblée nationale sur le sujet
mais
de
il
Gaza.
Il a un mandat électoral, il représente les Français de sa circonscription, on n'est pas là pour jouer au martyr.
Mais il joue pas au martyr, il a pas...
Vous dites si c'est une récompense et si ça permet d'avancer les choses.
Bah, ça permet d'avancer les choses. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de Français de sa circonscription qui sont très contents qu'il ait fait ce geste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui nous demandent, qui nous félicitent et qui nous disent enfin une force politique qui assume d'aller jusqu'au bout. Parce que vous avez l'impression qu'on est isolé en France, mais la réalité, c'est que la France commence à perdre sérieusement de son crédit sur la scène internationale parce qu'elle est absolument partielle dans cette affaire et qu'elle ne prend aucune sanction, que ce soit économique ou au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'elle est membre permanent.
Merci beaucoup Alma Dufour d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, députée LFI de Seine-et-Marne.
Il est 22h20 sur Europe 1, on fait maintenant un point sur les marchés financiers.
Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque.
Le CAC 40 qui clôture en baisse ce soir, moins 0,92% à 8057 points. Aux États-Unis, Wall Street clôture en ordre dispersé, plus 0,59% pour le Nasdaq, moins 0,55% pour le Dow Jones.
C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.
La météo désormais, avec vous Marlène Duret, des pluies vont circuler sur les trois quarts nord du pays demain.
Oui, des pluies qu'on va retrouver demain matin dans les Pays de la Loire, sur une bonne partie du Poitou-Charentes et du Centre-Val de Loire, mais aussi en région parisienne, dans l'Yonne, en Picardie, dans le nord-est du pays, avec des pluies d'ailleurs un peu plus marquées entre l'Île-de-France et la région Grand Est. Et l'après-midi, eh bien, notre perturbation va se déplacer en direction de la Savoie, du nord de Rhône-Alpes, de l'Auvergne, du nord-Aquitaine, mais en perdant quand même un peu de son activité. À mesure que cette perturbation ira vers ces régions, eh bien, sachez que quelques éclaircies se dessineront de la Bretagne vers les Hauts-de-France, entre deux averses. Et puis on notera quand même du temps sec entre la Garonne et les régions méditerranéennes. Un ciel plutôt lumineux le matin, mais bon, les nuages vont gagner du terrain et le temps lumineux résistera seulement du côté de la Côte d'Azur. Côté température, les températures maximales, donc assez similaires à celles d'aujourd'hui, afficheront 16 à 20 degrés sur les trois quarts nord du pays, entre 20 et 24 dans le sud-ouest et entre 24 et 28 côté méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Durand. Vous écoutez Europe 1, il est 22h22 quasiment et c'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix jusqu'à 1h du matin. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Maël, 22h22, dans 5 secondes, l'heure miroir. Je vous en ai déjà parlé.
Ah oui, il y a
des gens qui croient
quand les chiffres s'alignent,
exactement.
Quand ce sont les 4 mêmes chiffres.
Certains y voient un signe divin.
Chacun
si
son
vous voyez
avis,
quelque chose.
Pas spécialement, je vous avoue, mais écoutez, peut-être qu'à partir de ce soir,
deuxième
je vais
question.
Changer
d'avis. Vous aimez la confiture de fraises?
Vous faites référence. Vous expliquez la référence.
Non, mais ouais, la référence, bien évidemment. J'ai trouvé ça vraiment assez. C'était assez dynamique comme échange entre notre consoeur de France Inter et Marion Maréchal Le Pen. C'est vrai, c'est vrai. On est moi quand j'entends ces discours-là, si vous voulez, et une interview comme celle-là, j'ai l'impression d'être dans une discussion de sourds. Je trouve que le niveau n'est pas très élevé.
Rappeler le contexte quand même, Marion Maréchal était invitée de nos confrères de France Inter ce matin,
oui.
Et Sonia De Villers, qui est une intervieweuse là-bas, a semblé faire un parallèle entre les idées sociétales, notamment les idées sur la famille, sur le modèle familial.
Mais avec à l'origine une nomination au Festival de Cannes,
oui,
c'est ça ?
Oui, voilà, une récompense attribuée à Cannes à une actrice transgenre, donc un homme devenu femme et qui a obtenu un prix pour interprétation féminine.
Qu'a commenté Marion Maréchal Le Pen ?
Oui, elle a commenté en disant, écoutez, le prix d'interprétation féminine est remis à un homme. Voilà, bon, chacun aura son avis évidemment là-dessus.
Voilà, chacun a son avis là-dessus.
Chacun aura son avis.
Mais de là à faire le grand écart sur la famille française, les références au maréchal Pétain et la confiture de fraises, vous comprenez pourquoi je parle d'une discussion de sourds.
Voilà, bon, c'est vrai que ça tournait un petit peu en rond, et puis c'est une question qui a braqué aussi la tête de liste
Reconquête. Oui.
Mais elle s'en est expliquée d'ailleurs sur Europe 1 chez Pascal Praud tout à l'heure.
Et qui s'en est expliquée dans le calme. Oui, voilà, j'ai trouvé que son explication était plutôt voilà, saine. En tout cas, oui, la confiture de fraises, on aime tout ça. Et voilà, c'est pas pour ça que voilà, on ressemble à Adolf Hitler. Non, c'était plutôt assez bien vu, j'ai trouvé. Ça m'a fait rire, même si voilà, je suis pas spécialement du côté de cette jeune femme, mais enfin, je suis d'aucun côté moi. Donc comme ça va. Mais j'ai trouvé ça assez drôle. De toute façon, elle est brillante et on prend plaisir à écouter des orateurs comme cela, je trouve.
Eh bien, écoutez,
non, mais quand on est journaliste. C'est vrai, vous ne trouvez pas.
Ah ben, c'est les échanges qui sont toujours. Alors, c'est plus divertissant que.
Oui, oui. Puis, il voilà. y a quand même un intellect assez vif. C'est plaisant d'entendre ces échanges-là.
Et elle sera, on le rappelle, hein, quand même, elle sera aux côtés de 5 autres têtes de liste jeudi soir sur Europe 1 et CNews pour le débat des élections européennes présentées par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve à partir de 21h jeudi soir.
Et vous serez tous, bien évidemment, tous là, chers amis, pour écouter regarder surtout écouter ce débat, mais qui sera filmé aussi. Hein, me
semble-t-il. Alors c'est en simultané sur Europe 1 et sur CNews.
Oui. Voilà, bon, tout va bien, ça.
Sinon, écoutez, ça va fort dire.
Vous suivez Roland Garros.
Ah bah Inès. Écoutez, on est quand même radio officielle, donc effectivement, on suit et on a Inès dans les.
On a Inès
chaque heure avec nous.
Voilà, qui nous fait vraiment les choses de manière très professionnelle.
Absolument.
Encore une fois.
Et on la retrouve.
Très jeune journaliste. Hein.
Eh oui, comme elle vous. Fait partie. Oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Cette jeune génération très lumineuse, très pointilleuse et très très bien.
On est toujours touché par vos hommages, vous savez.
On donne une très très bonne note à Inès et à Maëlle.
Bon, c'est avec plaisir. On l'accepte avec grand plaisir, ce compliment.
Tiens, puis on donne une bonne note à Florian aussi.
Oui, voilà. Non, mais il le mérite toujours.
Ouais, lui, il est habitué aux bonnes notes.
Mais c'est important de lui rappeler quand même.
Allez, ben oui, mais il le sait. Il ne le sait que trop, vous savez.
Il le sait que trop, c'est vrai.
Voilà, puis Laurent lui donne plus de notes puisque lui, il a été élu au rang de de permanent gentil et. Très très bon programmateur musical.
Ça donne envie de l'appeler. Hein. Je parle pour les auditeurs de la Libre Antenne.
Exactement, parce que Florian est là, il attend vos appels au 01 80 20 39 21, chers amis. Et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Mais avant, vous aurez l'immense plaisir d'échanger avec l'homme qu'on surnomme 10 sur 10.
Et vous pourrez,
Florian Lanoir.
Vous pourrez constater qu'on ne le survend pas.
Exactement. Et puis il y a Julia aussi. Hein. On n'oublie pas Julia qui est là aussi et qui est mon autre bras droit.
Bien sûr.
Qui est fantastique. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on s'est auto-congratulé, nous allons passer aux choses sérieuses. On vous retrouve à 23h pour un nouveau tour de l'info. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
De 2h27 sur Europe 1 et puis avant d'introduire cette libre antenne, j'ai aussi oublié l'excellentissime Maxime Gondelot qui lui aussi a été oublié parce qu'il y a toujours un petit peu de Marseille partout, tout près de chez vous, chers amis, et que dans chaque travail de qualité, il y a du Marseille, un Marseillais qui se cache, ce talent de l'ombre qu'est Maxime Gondelot et qui est tous les soirs aux côtés de Maëlle Hassani et qui est aussi brillant que son jeune poulain. Donc on salue Maxime bien évidemment et toute la rédaction d'Europe 1 qui chaque soir et chaque journée est là pour vous informer de la manière la plus pointue qui soit, chers amis. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et je suis ravi de vous retrouver. Vous composez le 01 80 20 39 21 si vous souhaitez me parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous échangerez avec Julia ou avec Florian avant si besoin s'en ressent. Vous pouvez nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS que vous n'oubliez pas de signer. Nous accueillons aujourd'hui deux nouveaux membres sur notre page Facebook. Olivier Delacroix, Valérie Darmon, La Libre Antenne. 20 133 membres composent cette grande communauté de La Libre Antenne. Je vous rappelle, bien évidemment, qu'au-delà de la page Facebook, vous pouvez retrouver tous les podcasts d'Europe 1 sur la chaîne Instagram d'Europe 1 et sur YouTube, surtout sur la chaîne YouTube d'Europe 1, où vous pouvez et où vous êtes très nombreux à écouter la Libre Antenne et puis les autres émissions d'Europe 1 et puis aussi les différents témoignages qui sont découpés que l'on retrouve en isolé. Vous êtes parfois près de 800 000, 700 000 pour certains témoignages, ce qui montre combien vous êtes intéressé par toutes ces paroles ici dites sur la Libre Antenne. Vous nous écrivez vos courriers postaux ici à Europe 1, à Olivier Delacroix ou à Valérie Darmon, de rue des Cévennes, 75 015 Paris, et puis vos mails à Valérie, pareil, ou à moi, ou à Julia et Florian, bien évidemment, libreantenne@europe1.fr. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes désormais bien installé chez vous, ou peut-être dans votre voiture, ou à pied, en train de profiter des premières périodes de pré-été. Ici, chez nous à Paris, ça n'est pas encore le cas, mais je sais que pour une grande partie de la France, il fait beau, donc profitez de ces premiers instants de douceur avec l'application Europe 1 FR branchée sur votre casque. Et puis, nous sommes ravis de vous accompagner durant toute la nuit et au moins pour nous jusqu'à 1h du matin. Votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Esther sur l'antenne Europe 1. Bonsoir Esther.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous ?
Je commence par rebondir sur ce que vous venez de dire pour les satisfaits que vous avez donnés à Julia et à Florian, parce que je les ai eus tous les deux au téléphone.
Ah,
et
d'accord.
Effectivement, je confirme absolument l'empathie de ces deux personnes et elles mettent très à l'aise.
Mais
voilà.
Oui, c'est nécessaire lorsqu'on doit parler.
Absolument.
Oui, je dis souvent. Que cela soit pour la télévision avec Dans les yeux d'Olivier ou pour cette Libre Antenne, on oublie qu'il faut un certain courage pour témoigner. En fait, beaucoup de gens écoutent, mais ne décrocheraient jamais leur téléphone ou n'oseraient jamais aller devant une caméra se raconter. Et il faut un certain courage pour le faire. Donc je le rappelle là maintenant. Et c'est important, bien évidemment, que mes collaboratrices à France Télévisions, comme ici sur Europe 1, mes collaborateurs soient dans l'empathie et qu'ils soient bien élevés, tout ça. Nous ressemblons tous à ce niveau-là. Donc,
absolument.
Et je suis ravi que ça revienne régulièrement et que beaucoup de témoins le disent à l'antenne souvent, combien
oui.
L'accueil qui leur a été réservé a été important, parce que ça met à l'aise.
Bien sûr. Ça met en confiance, absolument.
Esther,
surtout lorsque vous annoncez qu'il y a 800 000 personnes qui écoutent derrière, alors on a vraiment besoin d'être en confiance.
Ouais, quand ça n'est pas plus, j'ai dit 800 000 pour ne pas paraître trop pompeux.
Vous avez dit 800 000, oui.
Mais oui, parce que c'est une moyenne pour pas mal de témoignages, certains dépassant le million. J'en suis le premier étonné, sur YouTube, en fait, il y a une seconde vie pour ces témoignages, et c'est assez impressionnant de voir la consommation de vos témoignages, à vous toutes et à vous tous qui appelez la Libre Antenne ou autre, hein, puisqu'il n'y a pas que la Libre Antenne sur la chaîne YouTube d'Europe 1, mais tous les programmes d'Europe 1, toutes les interviews. Voilà, toutes les émissions, et c'est assez incroyable de voir le nombre de personnes qui consomment la radio aujourd'hui, ouais. Comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est une seconde vie. Une fois que le direct est passé, eh bien plus rien n'est, enfin ça n'est pas oublié complètement et distillé comme ça dans le vide. Ça a une seconde vie. Esther, vous avez écrit « Tout commence avec toi » aux éditions Fabre, et dans ce récit, vous racontez sous forme de fiction votre cheminement vers l'adoption en solo. Une aventure, je suppose.
Alors, effectivement, et je vous remercie infiniment de citer le titre de mon récit. Alors, c'est un récit romancé, mais qui est quand même très largement autobiographique, et notamment dans tout le processus de l'adoption. Et j'allais dire pas que, parce que évidemment c'est un récit de vie plurielle. Hein. Il y a beaucoup de thèmes abordés, d'amour, d'amitié, mais le thème central est l'adoption, et c'est un cheminement qui m'a plu de décrire, parce que je l'ai vécu véritablement, j'allais dire, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, et j'ai pensé que, comme c'est une démarche qui est souvent délicate et qui est complexe, hein, ça n'empêche pas la complexité, que ça pouvait être intéressant de livrer ce témoignage, ou en tout cas ça pouvait contribuer à aider des personnes qui veulent entrer dans cette voie de parentalité. Oui. Et on me dit souvent que enfin un récit qui est un peu optimiste sur l'adoption et qui donne justement un retour positif, et c'est ce que je me suis employée à faire, j'allais dire naturellement, j'espère beaucoup de sincérité et d'authenticité, et c'est un témoignage qui, j'espère, pourra aider d'autres personnes, parce que on s'aperçoit quand on a fait cette démarche qu'en fait c'est une démarche qui touche beaucoup de gens. Mmh. Et on recueille beaucoup de confidences sur le sujet, et on s'aperçoit que dans beaucoup de familles, il y a quelqu'un de plus ou moins proche qui a tenté de faire la démarche, oui, avec plus ou moins de réussite, hein, de succès, et finalement c'est une démarche qui est finalement plus répandue qu'on peut le penser, et donc c'est intéressant de partager aussi sur ce point. Et pour moi, c'était très important de donner une image positive, sachant absolument que c'est un témoignage complètement personnel et que je comprends parfaitement que d'autres n'aient pas eu cette expérience ou n'aient pas eu une expérience aussi heureuse. Hein. Ça, c'est comme toute démarche dans la vie d'une façon générale, où tout ressenti ou tout ce qui est humain, et bien évidemment. Mais
pourquoi avoir emprunté la forme du roman plutôt que celle d'un témoignage?
Alors, pour tout vous dire, au début, j'avais écrit à la première personne, effectivement. Oui. Et puis, j'ai quand même beaucoup mis de fiction dans certains passages, je me suis dit que c'était pas honnête de rester à la première personne et de... Ce personnage me permettait tout simplement de prendre de la distance, évidemment. Mmh. Et le personnage de Judith dans mon livre. Et donc, ça me permettait de prendre cette distance. Ça me permettait aussi d'introduire de la légèreté également, parce que, encore une fois, j'aborde beaucoup de sujets. C'est beaucoup plus large que l'adoption. Et puis, je voulais un peu alterner. Je voulais pas rentrer dans un pathos, si vous voulez. Je voulais alterner l'humour et l'émotion, et c'est ce que j'ai essayé de faire, avec une espèce de voix off, vous voyez, qui, oui, comme un regard extérieur qui se poserait sur le personnage principal. Et en fait, son regard extérieur, c'est elle-même qui a sa voix off et qui vit les événements avec une petite voix de l'intérieur qui vient lui dire un certain nombre de choses, comme je pense que c'est notre cas tous dans la vie quand on est confronté à certaines situations. Parfois, on a un peu cette petite voix qui vient dire « Ah oui, ah ben là, voilà ce que je pense vraiment », et on exprime autre chose. Donc, emprunter la fiction me permettait ça, c'est distance, me permettait aussi une cohérence de récit, parce que je ne voulais pas faire un documentaire ou un récit qui serait sur toutes les étapes de l'adoption d'une façon linéaire. La fiction permet aussi des rebondissements, permet d'avoir une ligne conductrice, et autour de cette ligne conductrice, on peut y mettre évidemment beaucoup de choses.
Ce que l'on veut, en tout cas. Vous avez tenu, exactement, à souligner deux choses d'emblée. Vous avez tenu à souligner qu'une adoption, elle n'est pas obligatoirement malheureuse, mais qu'elle peut être positive et heureuse comme la vôtre. Et surtout, une volonté dans ce livre de faire comprendre que les mères adoptantes ne sont pas des mères au rabais. C'est quelque chose que vous avez ressenti, ça, que vous prenez les mères pour des mères pas comme les autres, alors, les mères adoptives.
Alors, je ne sais pas si c'est forcément le regard des autres qui est comme ça, mais ça peut être aussi son propre regard.
Oui, son
propre ressenti, parce que, alors évidemment, encore une fois, chaque cas est unique, et je pense notamment à des adoptions qui sont faites, j'allais dire, et pardonnez-moi si je ne veux pas être maladroite dans mon expression, ni blesser personne, mais des adoptions qui pourraient être faites par défaut, à défaut d'arriver à avoir à s'inscrire dans une filiation biologique. Donc, j'allais dire que c'est plus le regard même qu'on peut porter sur soi-même, de dire, ah oui, bon, ben, je n'arrive pas à avoir un enfant naturellement, alors faute de mieux, je me tourne vers l'adoption. Et là, c'est là où on peut mal vivre le parcours, et puis mal se vivre à l'intérieur même de ce parcours. On sait que tous les cas sont possibles, et c'est un petit peu des choses que j'ai vues autour de moi, et quand j'ai eu des amis qui, après ma propre expérience, se sont, j'allais dire, lancés dans ce parcours, je leur ai dit surtout, faites-le en confiance. Si vous le faites en confiance, vous récolterez vraiment des choses positives. Les gens qui... Alors, évidemment, c'est un parcours... Déjà, il y a l'aspect psychologique, évidemment, mais il y a ce parcours administratif qui est incontournable. Et on a quand même justement tous les doutes et tous les moments un peu de solitude par rapport à ce parcours administratif, hein, qui est quand même un peu impersonnel, mais en ce qui me concerne, je dois dire que j'ai rencontré des gens tout à fait à l'écoute, empathiques, et que ça s'est bien passé, mais à chaque fois on m'a quand même beaucoup mise en garde sur les difficultés du parcours lui-même et sur les difficultés de l'après-adoption. Il n'y a pas que le parcours.
Votre parcours est
la première étape.
Votre parcours est assez singulier, puisque vous avez à 40 ans un travail qui vous prend beaucoup de temps, que vous n'avez pas trouvé l'homme idéal pour envisager de faire votre vie avec cet homme et de concevoir un enfant. Et c'est là que l'idée d'adoption va commencer à grandir dans votre tête. À 40 ans, vous partiez de loin, non? Parce que
C'est pas tout à fait vrai, justement, parce que c'était quelque chose qui s'était inscrit très tôt en moi. En fait, avant la quarantaine, j'étais une jeune femme plutôt indépendante, effectivement, et l'idée de fonder une famille n'était pas dans mes priorités. Je vais être très honnête, et je me disais toujours, et pourtant j'étais issue d'un couple extrêmement structuré et structurant, extrêmement aimant. Donc j'avais un exemple. Vous voyez comme quoi on ne sait pas toujours finalement d'où sortent nos désirs.
Ouais. On ne reproduit pas obligatoirement le schéma de nos parents. Ouais.
Exactement, et j'avais justement un schéma tout à fait admirable et avec beaucoup d'amour, et justement mais en même temps, je me sentais vraiment inscrite dans une grande liberté. Je me sentais surtout un être extrêmement libre, extrêmement indépendante, mais extrêmement libre. Oui. Et puis, le temps passe très vite, finalement. Et c'est vrai que, autour de la quarantaine, j'ai rencontré l'homme qui est l'homme de ma vie, qui est devenu mon mari, d'ailleurs. Oui. Donc, vous voyez, on a tout fait, mais dans le désordre, en fait. Mais on s'est rencontrés assez tard. Et moi-même, donc, j'avais déjà, quand je l'ai rencontré, j'étais autour de la quarantaine. Et puis, on commence pas par se précipiter à dire on va faire un enfant. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et puis, j'allais certainement pas lui imposer ça. Et lui-même nous avons une certaine différence d'âge. Donc, lui-même n'était plus déjà tout jeune non plus. Et comme l'idée d'adoption était vraiment quelque chose qui m'était, j'allais dire, presque plus naturel, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui m'était en tout cas plus évidente que de m'inscrire dans le cadre d'une filiation biologique. Je déconnectais assez, et je déconnecte toujours, l'idée d'amour à l'idée de la filiation biologique.
D'accord.
C'est-à-dire que... Je considère, et c'est ce que je dis beaucoup dans le récit, je considère que tout rapport est un rapport d'adoption. C'est-à-dire que je considère que même nos enfants biologiques, alors je n'en ai pas l'expérience, donc je vais pas me permettre de parler sur une expérience que je ne connais pas, mais je pense qu'on doit toujours adopter les gens qu'on aime, que ce soit dans le cadre d'une filiation, dans nos amitiés, dans... Je dis toujours, moi j'ai adopté mes parents, je le dis toujours en plaisantant, en disant je prends les mêmes, mais je recommence, qui est pour moi la plus belle déclaration d'amour. Et c'est la même chose avec ma fille, et c'est la même chose dans toutes les relations humaines. Donc je déconnectais assez facilement l'idée de la reproduction à l'idée d'amour filial, en fait. Ça ne me posait pas de problème. Je dois être une très grande cérébrale et ça ne me posait pas de problème. Ça n'avait pas besoin de passer par mon corps, en fait, pour D'accord. être très honnête.
À 40 ans, donc, parce que finalement, lorsque je vous parle de la quarantaine, c'est encore jeune, hein, mais dans le oui. parcours de l'adoption, bon, pour avoir fait quelques films sur la question, il y a tout un tas de questions auxquelles et de critères auxquels on doit répondre. On ne vous a pas dit qu'à 40 ans c'était un peu tard, non? 40 ans c'était encore un âge.
Alors, vous voulez dire pour adopter, pour adopter. Alors, je dois dire non, on ne m'a pas découragée. On m'a mis en garde, mais on ne m'a pas découragée. C'est pour ça que je pense que j'ai sûrement eu de la chance de rencontrer des gens bienveillants, ou en tout cas qui me mettaient en garde, mais pas d'une façon répréhensible, en fait, en disant « attention, ça va être difficile, il faut que vous sachiez que c'est difficile ». La partie la plus difficile n'est pas tellement l'agrément, puisque on doit donc d'abord obtenir cet agrément de l'administration, alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, parce que mon témoignage, ma fille va avoir 26 ans, hein, donc j'espère que ce que je dis, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité au niveau des délais et comment ça se passe concrètement dans les adoptions d'aujourd'hui, mais à l'époque, l'agrément, comme par hasard, le délai, c'était 9 mois.
D'accord.
C'est amusant comme délai aphorique.
D'accord, ouais, incroyable.
Voilà, mais contrairement à la reproduction, au bout des 9 mois, vous n'avez rien. C'est-à-dire que les 9 mois, vous n'avez qu'un permis de...
Vous
n'avez qu'une autorisation.
Oui.
Exactement. Mm-hmm. Mais vous n'avez pas concrètement... tout est à faire. Et j'allais dire que pour moi, c'était la partie sûrement qui était la plus compliquée. Et puis, c'est vrai que j'adoptais en qualité de célibataire.
Oui,
puisque
oui.
Donc, j'avais...
Vous n'étiez pas encore mariée à l'époque.
Non, je n'étais pas mariée et c'était le début de notre relation et je n'allais pas, je ne voulais pas imposer, en fait, je ne voulais pas l'imposer comme un parcours à faire à deux. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose de plus facile, mais je disais à chaque fois, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, d'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, il est tout à fait disposé à vous rencontrer, mais on me disait non, ça ne vous intéresse pas, parce que comme c'est une demande en tant que célibataire, parce que vous savez, l'administration quand même, vous avez des cases et c'est difficile de sortir des cases si vous n'y rentrez pas. Donc, on n'a jamais voulu le rencontrer, on n'a pas demandé à le voir, c'était comme ça, donc c'était un agrément de célibataire, et après, évidemment, le dossier, une fois que vous avez l'agrément, je me suis dit que j'allais être complètement en dessous de la pile, hein. Parce que c'est ce qui pouvait être aussi normal, hein. On donnait une priorité aux couples, sûrement des couples plus jeunes aussi, comme vous dites, comme vous signalez, et c'est là que tout reste à faire, mais moi je me suis tournée tout de suite vers l'adoption internationale, je savais parfaitement qu'adopter en France, ce serait une peine perdue. Hein. Surtout que c'est très restrictif, les conditions d'adoption. Donc, je me suis immédiatement tournée vers l'adoption internationale.
Qu'est-ce que représentait l'adoption pour vous, en fait, au-delà de votre démarche à vous personnelle d'aimer un enfant et de protéger un enfant, d'éduquer un enfant, Esther.
Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à bien préciser que j'étais issue d'un couple vraiment très aimant et je me disais, je n'ai pas le droit de garder cet amour-là pour moi seule. J'avais vraiment envie de redonner une chance et de l'amour tel que je l'avais reçu et que je trouvais admirable. Et je ne pouvais pas... C'est-à-dire qu'à 40 ans, je me suis dit assez de faire la toupie autour de soi, c'était mon expression. J'avais une vie très agréable. Hein. Je travaillais beaucoup, mais mon métier me plaisait beaucoup. Je sortais beaucoup, j'avais des amis. Donc, j'allais dire... c'était pas par ennui ou par vie terne ou monotone, pas du tout, mais je me disais que il allait forcément me manquer quelque chose et il me manquait quelque chose et que j'avais absolument besoin de redonner cet amour et de m'intéresser à un être à protéger effectivement et à aider surtout à grandir et à s'épanouir et je dois dire que j'ai été très gâtée parce que j'ai une fille magnifique, merveilleuse, avec qui je m'entends très très bien et c'est pour ça que je suis d'autant plus en joie de partager ce témoignage parce que je n'ai pas l'expérience d'une filiation biologique, mais je ne vois pas comment je pourrais aimer plus que j'aime ma fille.
C'est formidable,
Mais voilà, et j'oublie complètement que je l'ai adoptée. J'ai toujours dit en plaisantant, un jour je vous raconterai mon accouchement, c'était ma grande...
votre grande plaisanterie.
Et voilà, c'était ma plaisanterie, mais vous savez, Olivier, ça c'est justement un point un peu délicat. Parce que quand vous adoptez, on vous dit, et alors d'ailleurs j'en parle dans mon récit, alors j'en fais un truc drôle, vous êtes obligé de passer par la consultation d'un psychiatre.
Oui.
Alors, ça c'est des petites choses où je comprenais pas trop, je me disais, mais pourquoi je dois aller voir un psychiatre? Est-ce que je suis folle parce que je veux adopter? Mais pas du tout, on vérifie, en fait, le psychiatre avait pour vocation de bien m'alerter à la difficulté de la démarche, etc. Mais comme moi, je considérais que la difficulté existe même dans une filiation biologique, parce qu'on n'a pas plus de garantie de bien s'entendre avec ses enfants, ou que la relation soit meilleure ou moins bonne, je ne sais pas. Pour moi, il y a les mêmes risques. Enfin, moi, je considérais qu'il y avait les mêmes risques. Et donc... Donc il y a ce passage obligé chez le psychiatre, mais après, ce qui est difficile, et le psychiatre m'avait dit, écoutez, il faudra quand même très tôt que vous disiez à votre enfant qu'il est adopté, ce que je comprenais parfaitement. Mm-hmm. Mm-hmm. Hors de question de cacher quoi que ce soit, bien évidemment, bien sûr. Mais c'est très compliqué, parce que moi j'ai eu ma fille, elle avait 2 ans et demi. À quel moment vous commencez à dire à cet enfant, et puis dans quel terme, expliquer à cet enfant que l'enfant n'est pas né de vous? Alors, je vous assure que c'est un exercice pas du tout facile en fait à faire parce que on se doit de cette honnêteté. Mais un enfant, et je lui ai redemandé récemment, je lui ai dit, mais à quel moment tu as pris conscience que tu étais adoptée? Parce que je te l'ai toujours dit, mais quand est-ce que tu as compris? Elle dit, mais j'ai toujours compris, j'ai toujours su. Elle peut pas le dater particulièrement à un âge précis. Alors, quand je voyais une dame enceinte, je disais, tu vois, la dame, elle est enceinte, elle porte un enfant dans son ventre. Alors, moi, c'est dans ma tête, dans mon cœur. Enfin, bon, évidemment, tous les mots qu'on utilise à ce moment-là. Mais c'est un peu compliqué parce que on a ce devoir, mais en même temps, on ne va pas toutes les 3 minutes le rappeler à l'enfant.
Bien sûr.
Voilà, on est spontané aussi. Voilà.
Revenons à ce psychiatre donc, qui vous a posé certaines questions, mais qui a eu quand même l'idée de vous vous raconter qu'un enfant devenu ado avait tué sa mère adoptive à coups de couteau. C'est quand même curieux.
Alors...
C'est peut-être lui qui aurait dû avoir besoin d'un examen,
alors,
pas un confrère.
Je vais être très honnête. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que j'avais besoin de la fiction. Parce que cette scène ne m'est pas arrivée à moi. Elle est arrivée à une de mes amies. Et il fallait, pour les besoins, justement, de mon récit, un peu pour...
Mettre des choses qui avaient existé.
De mettre des choses, exactement. Mmh. Et alors, effectivement, cette personne avait raconté qu'il connaissait le quelqu'un qui avait, à 15 ans, tué. Mais alors au début, je ne comprenais pas. On me dit, c'est métaphoriquement tué. Non, avec un bon couteau, bien effilé, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, mais je me suis dit, ça m'arrivera pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je raconte, mais qui ne m'est pas arrivé personnellement. Voilà.
En tout cas, une fois que vous avez eu votre agrément, les choses se sont plutôt passées de bien, hein, pour vous.
Oui.
Vous vous êtes tourné vers la Roumanie.
Absolument.
Un organisme qui se trouvait en Roumanie et vous avez
tout
eu la chance d'être tout de suite être pris très au sérieux.
Oui.
Alors que vous aviez des craintes, hein. Quel type de craintes vous aviez?
Oui. Alors j'avais beaucoup de craintes. Alors j'avais des craintes d'abord de la Roumanie. Il faut pas oublier qu'on était une dizaine d'années après tout ce qu'on pouvait voir comme horreur sur les orphelinats en Roumanie.
Oui.
L'époque, il y avait beaucoup de documentaires.
C'était l'époque de Ceausescu, hein, en plus. Hein.
Alors moi, c'était une dizaine d'années après.
Oui.
Mais,
enfin, bon.
Mais on voyait encore des documentaires.
Oui, il y avait eu des images sur ces orphelinats qui étaient assez terribles.
Terrible et terriblement traumatisante. Mais alors j'ai eu cette chance d'abord de, alors ça c'était aussi quelque chose qui me m'obsédait. Je me disais, mais je veux pas avoir à choisir un enfant, c'est impensable. Je veux pas arriver dans un lieu, vous voyez, où je voyais dans ma tête je sais pas des dizaines de bébés.
Oui,
et
oui.
Puis qu'on me dise choisissez. Enfin oui, voilà. Alors ça c'est sûrement des clichés peut-être que j'avais en tête, hein. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'amis, hein, qui ont adopté autour de moi et chacun a son, et finalement personne n'a eu ce type d'expérience, hein, parce que je pense que quand même quand vous avez affaire à des, ce qui était mon cas, une fondation sérieuse, en fait, suivant certains critères, je ne connais même pas moi-même lesquels.
Je pense qu'il y a une réflexion autour du choix.
Exactement, exactement. Et c'est ce que j'explique, et ça, c'est une des beautés. Alors ça m'est vraiment arrivé, et c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort. C'est que quand je suis arrivée pensant juste venir pour des questions d'ordre administratif, voir si mon dossier était en ordre, si tout allait bien se passer, en fait, la présidente de cette association avait déjà pensé à une enfant, donc à ma fille, et quand je suis arrivée dans son bureau, alors elle parlait un très bon français, vous savez, avec l'accent à la Elvire Popesco, et elle me voit et elle me tend la photo, et avec l'accent que je vais essayer de restituer, elle me dit, ça ne vous dérange pas qu'elle vous ressemble?
Oui. Elle vous ressemblait un peu.
Et elle me ressemblait un peu parce qu'elle était brune aux yeux clairs.
Ouais.
Et voilà. Et donc ça a été quelque chose de très très fort. Et je raconte comment j'ai regardé la pendule quand elle m'a tendu la photo. Il y avait une pendule au-dessus de son bureau. Il était 17h08. Et Olivier, croyez-moi ou pas, et les auditeurs pareil, à ce moment-là, je suis devenue mère. À 17h08. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas me justifier, j'allais dire, mais je me suis sentie, alors que je n'avais même pas vu cet enfant, je me suis sentie emplie d'elle avec un sentiment de plénitude totale. Et je ne peux pas l'expliquer, hein. C'est ce que j'appelle la grâce.
Oui.
Donc, et il en faut, et je pense que je l'ai ressenti à ce moment-là, et il en faut dans tout parcours humain, dans toute chose.
Tu n'es pas née de mon ventre, tu es née de mon cœur. C'est ce que vous lui avez très vite dit à votre fille.
Tout à fait, je lui ai dit ça, et l'adoption, c'est vraiment un processus inversé, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer en soi un enfant, alors que dans la filiation biologique, il sort de vous. Et c'est vraiment le processus inversé de par rapport à l'accouchement, et
oui, oui.
Je dis en
c'est un autre
après.
C'est un autre chemin. un autre chemin.
C'est un autre
d'amour.
Chemin, mais qui mène exactement aux mêmes voies. Et c'est vraiment le message que je veux dire aux personnes qui vont rentrer ou qui rentrent déjà dans ce chemin de parentalité, de le vivre en vraiment en confiance. Et il peut y avoir vraiment un grand bonheur au bout de ce chemin.
En tout cas, pour vous, Esther, tout s'est très bien passé. Votre fille a aujourd'hui 26 ans. Elle a 26 ans. Elle est scénariste, c'est-à-dire qu'elle a pris
absolument
aussi le goût de raconter les choses comme sa maman. Je crois savoir que
tout à
vous
fait.
Êtes...
Elle écrit la suite, elle écrit sa propre version à laquelle je ne touche pas. Elle écrit le scénario, parce que moi je m'arrête au moment où elle arrive, et elle-même écrit la suite de la jeune fille, et elle écrit une comédie, précisément, elle écrit sa version, la suite, et je pense avec beaucoup d'optimisme aussi.
Et puis elle a sans doute le goût des mots et de l'écrit, comme vous, qui êtes avocate, hein, je crois, Esther.
Absolument.
Vous vivez en Suisse avec le père de votre fille, puisque quelques temps après, il a adopté votre fille.
Absolument.
Et vous êtes, et vous le verrez, vous qui nous écoutez, si vous voulez lire Tout commence avec toi aux éditions Favre, ce récit d'une adoption heureuse, d'une grande histoire d'amour, d'une grâce, celle d'une maman et d'une enfant qui se sont trouvés, preuve que l'adoption est aussi et peut-être aussi une grande aventure humaine qui ne se passe pas toujours mal, chers amis, parce que c'est vrai
que
je vous ai souvent parlé de l'adoption dans mes films, et pas toujours des choses qui se passaient bien, mais il y a aussi des choses qui se passent, des aventures qui se passent très bien. Merci en tout cas, Esther, pour
merci à vous, Olivier.